Hello les cops,
c'est Chloé
et Tania, et aujourd'hui on va vous donner notre kit de survie pour les dîners de famille. Bon les cops, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté de l'info, on en parle littéralement, j'ai l'impression, depuis septembre sur les réseaux sociaux. Les fêtes de fin d'année approchent. Alors moi, personnellement, je passe pas le nouvel an avec ma famille, mais tous les ans Noël, je peux pas passer à la trappe. Je dois faire mon dîner de famille. Et je pense que je suis pas la seule à redouter un petit peu ça, parce que les dîners de famille, ça rime avec bonne bouffe, ça c'est cool. Ça rime avec cadeaux, ça aussi c'est cool, mais ça peut aussi rimer avec embrouilles, remarques, plein de trucs pas forcément cool. Et on avait envie de vous donner un petit peu notre kit de survie pour peut-être passer les fêtes avec plus de sérénité.
Et puis surtout, on voulait aussi vous rappeler qu'il n'y a pas un seul modèle de famille. La famille, il peut en exister de plein de sortes différentes. C'est pas forcément un homme, une femme et deux enfants. Enfin voilà, je pense qu'on a trop un modèle traditionnel qu'on voit à chaque fois à la télé, ce modèle un petit peu de la famille parfaite. Mais sachez que dans aucune famille, enfin en tout cas dans mon entourage, il n'y a aucune famille qui l'est. Il y a toujours des petites disputes, des embrouilles, des gens qui ne se parlent plus, des divorces, etc. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas forcément un modèle de famille traditionnel, je voulais vous déculpabiliser par rapport à ça et vous rappeler que ce qu'on voit souvent en surface, c'est loin d'être la réalité parce que on n'a pas forcément les derrière et les tenants et les aboutissants de ce qui se passe, notamment sur les réseaux. Voilà, vous voyez que certaines images, mais croyez-moi, rien n'est parfait pour personne.
Et je voulais aussi rajouter que, bien entendu, si vous n'avez pas de famille avec qui fêter Noël, c'est totalement ok derrière aussi. Peut-être même que votre religion fait que vous ne fêtez pas Noël, et c'est totalement ok aussi. Peut-être essayer de faire un truc. Moi, en tout cas, c'est ce que je recommande, parce que même dans mon entourage, il y a pas mal de personnes qui fêtent pas Noël. Comme c'est quand même une soirée où on a l'impression que tout le monde se réunit, tout le monde fait des dîners sur les réseaux sociaux. Moi, je me rappelle à chaque Noël, tu vois, genre tout le monde, carrément, moi, des fois, je faisais un peu un complexe d'infériorité sur ce que les autres bouffaient. Genre, j'étais en mode, putain, oui, ils bouffent 4 repas de Noël, tu sais, genre le jour de Noël, le lendemain de Noël, le surlendemain, tu sais, les gens qui ont des énormes familles qui n'arrêtent pas de faire de la bouffe tout le temps. Moi, vous savez, ça m'a créé de la jalousie. Voilà, bon, comme ça, vous savez qu'on peut même complexer sur la bouffe. Ça, c'est un nouveau complexe que j'ai débloqué.
Et aussi sur les cadeaux. Enfin, moi, quand je vois, tu sais, les sapins remplis de plein de cadeaux avec des maisons magnifiques, des belles décos et tout, comme on voit sur Insta. Mais moi, des fois, ça ne m'est pas top, quoi. Parce que moi, je me dis, putain, mon Noël, il était bof, quoi.
Mais même, tu sais, des fois, tu vois les marques, genre rien que c'est con, mais comme de par hasard, ils font exprès de laisser des sacs de marques en dessous des sapins de Noël. Et des fois, je me dis, mais attends, mais les gens, ils ont fait leur cadeau de Noël chez Dior. Moi, limite, si j'ai été acheter une paire de baskets à courir pour mon petit cousin, je me sens déjà la mère Noël la plus stylée de France. Donc bon, bref, voilà, ne complexez pas par rapport que ce soit au cadeau, à la bouffe ou quoi. Chaque famille est différente. Chacun fait en fonction de ses moyens. L'important, c'est de faire plaisir. Moi, par exemple, pour le coup, ce que je dis tout le temps à ma famille et notamment à ma sœur, c'est que genre moi, je m'en fous qu'on m'offre des trucs qui valent des sous, parce que des sous, j'en ai. Et par contre, j'adore. Par exemple, ma sœur, elle me fait souvent des trucs DIY et tout. Et ça, je kiffe. Genre dans ma chambre, enfin, c'est pour celles qui me suivent, vous voyez, j'ai deux attrape-rêves. J'en ai un sur ma fenêtre et j'en ai un derrière mon lit, c'est ma sœur qui me les a fait, et genre ça me sert de ouf et je le trouve trop beau et ça me fait trop plaisir de me dire qu'elle a pris de son temps pour me les faire. Donc bref, il n'y a pas de pression à se mettre par rapport à l'argent ou d'autres trucs comme ça pour Noël, même si c'est pas le sujet principal, on voulait quand même vous faire ce petit reminder.
Et n'hésitez pas à vous préserver et à ne pas forcément regarder pendant deux jours les stories des gens si jamais c'est quelque chose qui peut susciter chez vous un malaise, de la jalousie ou vous ramener à quelque chose qui est parfois douloureux. Voilà, couper, et je pense que même moi, parfois, je le fais. Pendant les fêtes, c'est un moment où j'essaye de ne pas trop être sur mon téléphone, justement plutôt de profiter de mes proches, loin des choses matérielles, mais plus juste prendre du temps avec eux, parce que c'est vrai que moi, à l'année, je ne le fais pas forcément. Comme j'habite à Paris ma famille parfois vit dans d'autres villes, notamment mes parents, mes frères sont à Bordeaux, je ne les vois pas tous les quatre matins. Donc du coup, j'essaye plutôt de profiter de ce temps-là juste pour discuter avec eux, rigoler. Et le reste, on s'en fout, quoi.
Et par contre, j'ai pas terminé ma phrase de tout à l'heure, mais je voulais juste dire que si vous êtes seul pour Noël parce que vous n'avez pas une famille et que vous estimez qu'il faut le faire en famille, moi, je vous recommande de vous réunir entre potes, avec n'importe quelle personne qui est dispo, parce que c'est toujours plus sympa de ne pas passer cette soirée-là seule. Et moi, je sais que, par exemple, des gens de ma famille qui ne font pas Noël se réunissent avec d'autres amis et comme ça ils passent aussi une bonne soirée, parce que voilà, cette soirée là n'est pas dédiée qu'aux personnes qui font Noël, cette soirée existe aussi pour les autres. Bref, du coup on voulait quand même parler un peu plus en profondeur des sujets qui sont abordés à Noël et notamment de la pression sociale qu'on va avoir sur le poids, sur le couple, sur ton taf, etc. Et donc déjà, moi, j'ai envie de poser une question à Chloé, c'est est-ce que toi, par exemple, à Noël, on t'a déjà mis la pression sur ce que tu mangeais, etc. Ou est-ce que, parce que toi, je crois que tu n'avais pas trop une famille qui met la pression, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé quand même ou pas ?
Bah oui, forcément, parce que déjà, je pense que dans la famille, c'est un peu bizarre parce que c'est comme si on était obligé d'être ensemble, comme si on était obligé de s'entendre, alors que parfois on n'a rien en commun, on n'a rien à voir, tu vois. Genre, t'as tes oncles, tes tantes, tes cousins, tes cousines, on vient parfois d'un univers complètement différent, avec pas forcément la même vision des choses, ni la même mentalité, et pourtant on doit cohabiter et partager un repas, alors que parfois on le fait même pas le reste de l'année, tu vois. Donc forcément, parfois ça peut amener un petit peu à des dissonances, et notamment à des remarques sur le poids, ou par exemple, à un moment donné, j'étais végétarienne, donc je ne mangeais plus de viande ni de poisson, t'inquiète pas, qu'on me disait « Mais attends, mais tu vas pas manger du plat là ?»« Non, mais t'es vraiment bizarre, tu vas être en mauvaise santé, tu vas avoir des carences, et blablabli, et blablabla. » Petit discours moralisateur que je n'avais pas demandé, par exemple. Donc voilà, des choses comme ça. Ou alors des petites questions un petit peu malaisantes. Alors les amours, ça fait 7 ans que je suis célibataire. Tu comptes me poser la question tous les ans ou ça
Tu crois
se passe
que je vais pas te le dire de moi-même si je suis en couple ou pas?
De ouf. Donc voilà, parfois c'est juste des questions où ça te ramène un petit peu à ta vie, et j'ai l'impression que ce qui est triste aujourd'hui, c'est qu'on va juger un petit peu les gens en mode ah bah cette personne-là, elle a réussi sa vie parce que elle a un bon taf, elle est en couple. Et
potentiellement les minces, hein,
ouais, voilà. Donc là, t'as le trio gagnant, c'est super. Et en fait, j'ai l'impression que comme les gens, tu les vois pas souvent, tu vas plutôt avoir tendance à poser des questions un petit peu bateau. Et donc, du coup, tu vas être jugé un petit peu, par exemple, sur ces trois éléments-là, tu vois.
Ouais, non, mais c'est clair. Et en plus, c'est vrai, comme tu dis, que c'est déjà de base, genre rien que le concept de base de se réunir en famille. Et ça dépend de la taille de la famille. Bon, moi, elle est relativement petite, donc ça va. Mais genre, je ressens quand même ce que t'as dit, que des fois, t'as l'impression limite de dîner presque avec des inconnus et que c'est un peu genre une mascarade en mode on est tous heureux de se rejoindre. Non, mais c'est un peu. En fait, c'est marrant parce que moi, je trouve que le concept de la famille, il est un peu. Je trouve quand on est petit, il est vraiment compréhensible, mais quand tu grandis et que t'es plus un enfant, c'est vraiment genre. Parce que tu commences à avoir le choix, en fait. Tu vois, quand t'es petit, t'as pas le choix, tu te poses pas la question, donc c'est ta famille, et puis voilà quoi. Mais en tant qu'adulte, où tu choisis vraiment ton entourage à fond, avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi, à la limite le même humour que toi et tout, après quand tu te trouves en famille, moi je trouve que tu passes des soirées un peu en mode qu'est-ce que je fais là, tu vois. Mais non, en vrai, quand même, enfin moi je tiens quand même à dire que même si on va peut-être un peu critiquer la famille là dans ce podcast, si vous tombez par là, même si je pense pas que vous êtes des grands écouteurs de podcast, mais on sait jamais. En tout cas, je trouve que ça reste quand même, même si on ne s'entend pas toujours parfaitement, c'est un peu un amour incompréhensible, tu vois, que tu as avec la famille. C'est un lien qui ne s'explique pas, tu vois. Donc,
Ouais, c'est vrai. Genre, tu te dis, genre, pourquoi j'aime ces personnes, enfin, alors qu'on ne partage pas forcément beaucoup de choses au quotidien. Genre, tu es beaucoup plus proche, par exemple, de tes amis, tu vois.
Ouais, ouais, c'est clair.
Genre, par exemple, je suis beaucoup plus proche de Tania que, je sais pas, de certaines personnes de ma famille, ouais, tu vois. Donc, je me dis,
C'est bizarre, mais c'est bizarre. Mais d'un côté, avec ta famille, tu vois, enfin, quand on a une famille avec qui on a traîné souvent, moi, je sais que j'ai vécu des choses sur la durée, en fait. C'est même s'ils ne sont pas tout le temps là. Genre, je sais que ça me ferait bizarre de ne pas passer un Noël avec eux ou des trucs comme ça, quoi. Parce que c'est intangible. Moi, je trouve que c'est bizarre, mais bref, l'amour familial, même s'il nous casse les pieds, moi, je le sens quand même, tu vois.
Oui, et puis je pense que c'est important aussi pour notre équilibre. Tu sais, quand c'est aussi la famille, c'est celle qui te donne les valeurs quand t'es petit, etc.
Je pense la famille proche, mais la famille...
Oui, oui, là, quand je parle de la famille, c'est plus tes frères, tes sœurs, ou tes parents.
Ok, ouais. Le cercle très proche, quoi. Ouais. Mais ça peut être aussi, par exemple, si vous avez perdu vos parents, vos grands-parents. Enfin, en fait, c'est les personnes avec qui vous avez évolué le plus clair de votre temps en tant que jeune adulte, je pense, qui compte le plus. Même moi, tu vois, je me dis, c'est bête, mais j'ai grandi beaucoup avec Gabin, et genre pour moi, Gabin, il fait presque partie de mon cercle familial, et je pense qu'il a peut-être eu plus d'impact, limite, que mes tatas et mes tontons, tu vois, que ouais, j'y voyais jamais. Donc bon, voilà, la famille, encore une fois, c'est vraiment pour moi aussi les gens avec qui vous avez passé le plus de temps, quoi.
Et du coup, toi, t'as déjà reçu des remarques
Moi,
table
voilà. Si vous avez écouté les autres podcasts, ce qu'on vous invite à faire fortement, vous savez que moi, perso, j'ai eu une famille, je sais pas si je trouve grossophobe, c'est vraiment un gros mot, tu vois. Mais en tout cas, c'était une famille où clairement, le fait d'être mince, ça faisait vraiment partie des trucs à cocher dans sa vie pour avoir une belle vie, quoi. Et si t'étais pas mince, tu avais un peu raté ce truc-là, tu vois. Bon, après, encore une fois, tu peux être mince à des moments de ta vie, après être gros, après être mince, mais bon, du coup, toutes mes fluctuations de poids étaient commentées, ça, clairement. Et après aussi, moi, je sais que ma grand-mère, vraiment, Malheureusement, elle est décédée, donc je ne suis pas trop envie de tailler du sucre, casser du sucre sur le dos de ma grand-mère. Mais bon, en tout cas, même si je l'aimais beaucoup, elle avait vraiment ce truc à l'ancienne où pour elle, vraiment, limite, sa fierté dans sa vie, c'était d'avoir été mince jusqu'au bout, tu vois. Et à 84 ans, parce qu'elle a décédé à 84 ans, elle était encore là en mode t'as vu, je rentre dans ci, je rentre dans ça. Et, tu vois, genre, c'était vraiment, ouais, jusqu'à 84 ans, c'était vraiment quelque chose qui était important pour elle, quoi. Le poids, qu'est-ce qu'on mangeait, tu t'es resservi de ça, tu vas reprendre de ça, ouais.
Elle faisait des plats.
Bah pour autant, elle faisait des bons petits plats. Non, des bons petits plats. Mais elle a toujours, en fait, elle a toujours dit ma grand-mère. Même tu vois, par exemple, elle m'a déjà vu faire des régimes et tout. Et elle disait toujours, tu peux manger de tout, mais il faut manger de petites quantités de tout. Donc en soi, elle faisait des plats de porc, mais elle mangeait un tout petit peu. Moi, j'étais en mode, mais encore, mamie. Donc bon, voilà, c'était toujours un petit peu bizarre. Donc effectivement, moi, je me suis mangé plein de remarques, que ce soit du côté de mon père comme du côté de ma mère, parce que mes parents sont divorcés. Et en fait, moi, petit à petit, je pense que j'ai réussi à genre faire abstraction, tu vois, de ces remarques. Parce que c'est jamais agréable de te manger des « pourquoi tu te resserres de ça ?»« T'as pas un petit peu pris du poids ?»« Fais attention et tout. » Enfin, franchement, même les remarques qui se veulent bienveillantes, en fait, c'est des piques, tu vois. Et si t'as pas confiance en toi, moi, je sais que, bah, je vous l'ai dit, elle a évolué avec le temps, ma confiance en moi, quand même. Bah, au début, ça me faisait grave me sentir mal, en fait. Tu te sens pas légitime, t'oses plus manger, tu manges un peu en cachette. Enfin, tu passes un Noël de merde, en fait, alors qu'un Noël, c'est censé pas te prendre la tête et juste passer un bon moment. Donc moi, si vous voulez, je peux vous expliquer un petit peu comment petit à petit j'ai réussi à prendre du recul et à mieux vivre cette période. Et du coup, bah, j'ai dû vous expliquer mon starter pack.
Ouais, mais d'ailleurs, tu faisais quoi quand ils te faisaient des remarques, notamment sur ton assiette ?
Bah, quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à genre, vraiment contrôler ce que je mangeais. Donc je passais pas un bon moment parce que pour moi, passer un bon moment, ça passe par bien manger. Donc en fait, vraiment, mes premières remarques que je me mangeais, je sais pas moi, de mes 10 piges à mes 15 piges, je contrôlais ce que je mangeais devant eux, ça me saoulait, j'étais frustrée parce que j'avais la dalle, limite, on m'offrait des chocolats, c'est le truc hyper paradoxal, genre Tania, tu manges trop, et après derrière, le cadeau qu'on m'offre, c'est des chocolats. Bah, en fait, du coup, je rentrais chez moi, mais je tapais toute la boîte d'un coup, tu vois. Donc super, au final, j'ai rien bouffé à table et j'ai tapé tous les chocolats en rentrant. Enfin, c'était vraiment une représentation à la con, tout ça pour plaire à des gens qui, eux, me plaisent pas sur tous les points, tu vois. Je vais pas leur faire des remarques sur tous les points, tous les aspects de leur vie qui, eux, me dérangent, tu vois. Pourquoi est-ce qu'ils viendraient regarder ce qui se passe dans mon assiette ? Du coup, voilà, au début, je pense que vraiment, ça me mettait mal et du coup, bah, j'essayais de changer un petit peu ma manière de consommer devant eux la nourriture. Et en fait, avec du temps et du recul, je me suis dit que, en fait, ça me faisait plus la peine qu'autre chose, que eux, pour eux, un soir de Noël, la seule chose qui les intéresse et qui les concerne et qui les tracasse, c'est de savoir eux ce qu'ils vont manger, moi ce que je vais manger, comment est-ce que je vais grossir ou maigrir après les fêtes. Enfin, en fait, c'est triste, tu vois, que ce soit ça leur centre d'intérêt un soir de Noël, tu vois. Et je me dis, en fait, eux, ils n'arrivent même pas à décrocher de ces standards de société à la con qui te font sans arrêt penser à ce que tu vas prendre du poids ou perdre du poids, même un soir de Noël. Genre, c'est vraiment le soir de l'année où normalement, tu es censé pas penser à ça. Et maintenant, on en a fait tout un truc en mode comment maigrir après les fêtes, même les journaux, etc. Enfin, c'est un truc de malade. Donc moi, perso, bah, déjà, quand je reçois des remarques comme ça, j'ai plus de la peine qu'autre chose. C'est un peu comme des haters, mais qui dînent avec moi ce soir, tu vois. Donc, j'ai mes petits haters à table. Et encore une fois, pour moi, quand tu as de la haine à donner à quelqu'un, même si c'est de la haine bien pensée ou que tu penses qu'il est bien placé ou quoi, non, en fait, c'est pas grave. Donc moi, ça me fait plus de la peine pour eux qu'autre chose. Et à côté de ça, bah, moi, je me rappelle ces trucs-là qu'on dit toujours au quotidien, des choses qui me motivent et qui me font penser que je ne suis pas qu'un poids, je ne suis pas qu'un physique. Et ça me permet aussi d'évoluer par rapport à ça, où je me dis, bah, c'est dommage qu'eux en soient encore à ce stade-là, alors que moi, j'ai évolué et je sais que je vaux beaucoup plus que des remarques sur mon assiette, qui ne regardent que moi, parce que c'est moi qui vais la déguster, et un poids qui, eux, les dérange, mais qui, moi, au final, ne m'empêche pas de vivre, clairement pas.
Ben en fait, je sais pas si les gens, quand ils font les remarques, ils ont conscience, tu vois, du mal qu'ils peuvent faire. Parce que j'ai l'impression, même moi, quand j'en parle, tu vois, en story et tout, j'ai l'impression que pour les gens, c'est normal de commenter le poids des autres. Alors que non, pour moi, le poids, c'est vraiment quelque chose qui est strictement personnel. Tu ne connais pas ma vie, tu ne connais pas mon état de santé. Donc, qui es-tu pour me faire des remarques ? Et j'ai l'impression que, ouais, que c'est comme si les gens, ils s'appropriaient quelque part un petit peu qui on est, alors que bah ils ont rien à dire en fait sur notre corps. Et en fait, souvent, c'est, je trouve que c'est ça le problème, c'est qu'on a trop tendance à normaliser le fait de commenter en mode bravo, t'as perdu du poids, t'es super bien comme ça. Ah bah dis donc, on a un bon petit coup de fourchette en ce moment, hein. On a pris un peu de poids. Genre, je suis en mode, en fait, non, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, les gens n'ont pas à commenter notre poids. Et en plus, c'est parce que j'ai l'impression que les gens, ils se rendent pas compte que quand le poids fluctue, c'est pas forcément quelque chose de positif. Par exemple, une fille qui a perdu du poids, moi je sais que ma famille va dire, ah bah super, tiens, tu t'es bien remis en forme, hein, t'as bien perdu du poids, c'est super, c'est génial. Et en fait derrière, bah non, en fait je sors d'une rupture hyper douloureuse qui m'a coupé l'envie de manger, j'étais au plus bas, j'ai développé une dépression, non, j'ai eu des TCA, non, j'ai une maladie. Et en fait juste les gens, ils s'en rendent pas compte. Et ils font juste leurs commentaires en se disant bah voilà, peut-être que ça va les aider, peut-être qu'ils ont besoin d'un électrochoc. Moi, j'ai toujours détesté en fait cette vision où les gens se disent non, mais je le dis pour elle, pour sa santé en fait, c'est pour l'aider. Mais en quoi tu m'aides ?
Mais surtout, en fait, moi, ce qui me rend ouf, c'est de me dire à quel point les gens, en fait, ils considèrent le poids comme vraiment notre santé. Genre, en fait, toute ta vie, elle est autour du poids pour eux. Si t'as pris du poids, bah, tu vas être en mauvaise santé automatiquement. Alors qu'en fait, il y a des personnes grosses qui sont en bonne santé, il y a des personnes minces qui sont en mauvaise santé. En fait, il n'y a pas de règles, tu vois. Alors oui, il peut y avoir des comorbidités, je crois, c'est comme ça qu'on dit. Genre, oui, si tu prends du poids, peut-être que tu vas avoir plus de mal à faire ceci, plus de mal à faire cela. Mais en fait, déjà, en quoi ça te regarde ? Genre, en quoi c'est ton problème ? Parce que c'est mon poids, encore une fois, j'en suis consciente. Je pense que quand t'es gros, t'es la première personne à être au courant, tu vois. C'est pas les gens d'en face qui vont te l'apprendre, bah, c'est une première nouvelle, tu vois. Et en plus de ça, genre, pour le coup, mieux vaut quelqu'un. Enfin, moi, je préfère voir quelqu'un qui a pris du poids, mais comme tu dis, par exemple, qui est heureuse dans son couple, qui kiffe, etc. Et qui a pris 5 kilos parce que bah, elle est en couple depuis 6 mois et que, vas-y, ils se sont fait plein de restos, ils se sont fait kiffer. Plutôt que de voir une copine à moi qui va être en dépression et qui va être en train de perdre du poids parce qu'elle sort plus, parce qu'elle s'alimente plus, parce qu'elle est stressée. Enfin, je sais pas, genre pour moi, comme tu dis, les fluctuations de poids, c'est le dernier facteur qui va te permettre de savoir si une personne est en bonne santé ou pas.
Et du coup, pour moi, les gens, ils devraient plus dire est-ce que t'es épanouie dans ce que tu fais ? Est-ce que ton travail te plaît ?
Comment tu te sens en ce moment ?
Ouais, voilà, est-ce que t'as le moral ? Je sais pas, genre, ils devraient poser d'autres questions que des putains de questions sur notre poids, en fait.
C'est ça, et surtout, le pire, c'est que je trouve que c'est pas fait de belle manière, parce qu'en général, quand t'as des nids de famille, tu vas avoir droit à ce genre de remarques, notamment sur le poids, devant tout le monde, tu vois. Alors que encore, si on me demandait genre comment tu vas vraiment en ce moment, des choses comme ça, c'est bien en vrai, mais c'est des questions, je trouve, qui doivent pas se poser devant la voie publique, genre devant beaucoup de personnes. Genre, c'est des questions qui se posent en petit comité, parce que bah même, enfin, imaginons que je vais pas bien, voilà, j'ai perdu du poids, je vais pas bien. En fait, si on me dit bravo Tania, t'as perdu du poids, ou comment tu vas Tania en ce moment, on dirait que t'as minci, ou même pas forcément en rapport avec le poids, tu vois, mais c'est pas, t'as pas envie d'en parler devant 10 personnes, tu vois. Genre, moi, c'est ouais, des choses, j'ai envie d'en parler en petit comité, ou des fois j'ai pas envie d'en parler, ou tu vois. C'est trop bizarre, c'est pour ça que c'est vraiment... C'est... La complexité aussi, c'est qu'on en a assez peu finalement des dîners de famille, en tout cas dans mon cas. Donc du coup, on marche un peu tous sur des œufs, tu vois. Et c'est vrai que les personnes ne peuvent pas être toutes au courant exactement de ce qui va être toi qui va te faire de la peine, ce qui va pas faire de la peine à l'autre. Et des fois même, ce qui est trop bizarre, c'est que j'ai l'impression que ce genre de remarques-là, limite c'est des remarques qui vont permettre de créer la conversation chez les gens. Tu sais, ils vont se dire, ah bah, je vais lui parler de ça, comme ça après elle va me raconter ce qu'elle fait, pour comment elle a perdu du poids. Tu sais, c'est devenu des conversations de couloir. Mais en fait, non, c'est pas des conversations que tu sors comme ça qui vont permettre de d'enchaîner sur une discussion. C'est des conversations qui peuvent mettre mal à l'aise des personnes. Tu peux parler de, je sais pas, moi, j'ai vu ton dernier, je sais pas si la personne elle peint des trucs, une dernière peinture, c'est super cool. Ou je sais pas, genre laisser la personne venir et parler de son poids, si elle a envie de parler de son poids, ou de parler de son ex, si elle a envie de parler de son ex. Ou c'est, voilà quoi, c'est plus comme ça que ça devrait se faire.
Et du coup, ouais, toi tu disais plutôt l'ignorance, mais parfois moi je pense qu'il faut mettre des gros stops aux gens, enfin au bout d'un moment, ferme-la. Alors... moi des fois j'ai envie de leur dire, bah tu sais, genre je réponds, mais genre de manière un peu incisive, et je sais que c'est pas forcément la meilleure des cas, parce que après ça peut mener à un truc un petit peu agressif et on n'a pas envie de ça, tu vois. Mais moi des fois j'en ai trop marre en fait, stop.
Mais en fait, je pense que ça dépend de chaque famille après. Moi, je sais que dans ma famille, on vient du sud. Tout le monde a le sang chaud et du coup, ça part au quart de tour. Donc moi, j'ai toujours eu un peu cette place de médiateur. Et en vrai, tout le monde me dit toujours que j'ai genre la meilleure manière et la meilleure approche, en tout cas dans ma famille, pour traiter ce genre de problème. Parce que justement, nous, limite, si la personne n'est pas à table au bout de 5 minutes alors qu'on lui a dit de venir à table, ça peut partir en cacahuète et il n'y a plus de Noël, tu vois. Donc moi, en général, au contraire, j'essaie de calmer les tensions. Et donc, ce n'est pas moi qui vais avoir ce réflexe de élever la voix ou quoi en cas de pépin. Parce que j'ai remarqué qu'en fait, comme on gueule pour le sel qui n'est pas à table, si je commence à gueuler pour un truc, limite, ça ne va pas être entendu. Donc moi, dans ma famille, au contraire, limite, mieux vaut se la fermer. Et plus moins tu vas l'ouvrir, moins tu vas réagir, plus les gens vont se rendre compte qu'il y a un truc qui cloche. Donc voilà, moi c'est plus comme ça que je l'appréhende. Je pense que des fois le silence, c'est la meilleure des réponses. Et moi dans mon cas, je pense qu'à force de pas réagir en fait justement sur ces remarques de poids, etc., que les gens se sont rendus compte que bah en fait c'était malaisant plus qu'autre chose, parce que je leur ai pas répondu. Et c'est gênant pour eux, tu vois. Sans être méchante, tu vois.
Se rendre compte du coup.
Bah moi, en tout cas, j'ai beaucoup moins de plus ça va, moins j'ai de remarques ou de trucs bizarres sur mon poids. Après, j'avais ma grand-mère parce que, vous savez, quand on passe un certain âge, j'ai l'impression que c'est encore plus dur de faire passer des idées. Donc, bon, ma grand-mère, j'ai l'impression que j'aurais eu beau faire tout le travail que je veux. Voilà, elle est partie avec avec sa minceur et je pense qu'elle est très heureuse comme ça, de là-haut.
Et puis parfois je pense aussi qu'il y a, tu sais, les écarts de génération qui sont pas toujours évidents aussi à supporter. Par exemple, je sais que notre génération, on est sûrement beaucoup plus au fait justement de ces questions d'inclusivité, de respecter l'autre par rapport au poids. On est aussi beaucoup plus au fait de l'écologie. Mmh. Tu vois, moi je sais que, là on parlait beaucoup du poids, mais moi je sais que par exemple, toutes les questions écologie, c'est vraiment un truc qui divise, tu vois. Je sais qu'on n'est pas du tout d'accord, notamment moi dans ma famille, il y a beaucoup de chasseurs. Et moi suis anti-chasse. Je suis anti-chasse, ils me ramènent le sanglier à table.
Oh là là.
Je ne suis pas trop à l'aise, ils ramènent des pigeons. Voilà, les pigeons.
Oh là là, un bon petit pigeon de Noël.
Des lapins qu'ils ont tués, je suis pas trop à l'aise. Et du coup, bah, forcément, c'est assez compliqué. Mais voilà, franchement, j'essaye de mettre de l'eau dans mon vin, comme on dit, et j'essaye de composer, de faire avec. Et est-ce que tu penses, Tania, que c'est grave de si on n'a pas envie d'aller à une fête de famille, est-ce que pour toi, c'est grave?
Je sais pas comment expliquer, mais moi, comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression que j'ai cette attache qui est pas mesurable, c'est-à-dire que je peux pas, genre pour moi c'est pas concevable que j'aille pas un dîner de Noël, même si attention, moi il m'arrivait des dîners de Noël où on était la moitié de la famille, machin, il y a eu des groupes, des clashs, des trucs, donc ça arrive, tu vois. Bah, mon père à un moment il a été exclu d'un dîner de Noël parce qu'il y avait une embrouille avec ma sœur, je te jure, je crois pendant 2 ans, un truc comme ça. Donc c'était trash, mais après parce que ma sœur elle s'était bien embrouillée avec mon père et en fait ils se voyaient plus, quoi. Donc, je sais pas, moi, même si on s'embrouille et tout, en fait, on a vraiment ce rituel et je trouve qu'on n'a pas beaucoup d'occasions de se retrouver. Donc, j'ai l'impression que si je rate un dîner de famille, comme Noël, par exemple, comme il y en a genre limite 5 par an, bah, je me dis c'est triste parce que ça ferait que créer encore plus un fossé dans ma famille de laquelle je suis déjà pas hyper proche, tu vois.
Ouais, mais je trouve aussi que, enfin, c'est... Parfois, je trouve ça bête parce que le temps passe vite et je me dis, il y a des personnes qui ne veulent même plus se parler pendant des années, alors que parfois, c'est juste un problème de communication, tu vois. Mmh. Et je trouve ça dommage aussi parfois de passer à côté de tous ces moments-là. Enfin, tu sais, ça se voit, par exemple, des relations mère-fille où elles ne se parlent plus pendant des années, ou comme tu disais, père-fille. Mmh. Et c'est vrai que parfois, je me dis, c'est bien d'avoir aussi peut-être, je sais pas, un médiateur. Ou...
C'est moi. Dans la famille, c'est moi.
C'est vrai ?
Ouais, c'est moi.
Et du coup, ça marche ?
Bah, ça marche, mais après, en fait, déjà, c'est marrant parce que quand j'étais plus jeune, j'avais plus de temps à accorder à ces médiations. Donc, du coup, bah, je passais énormément de temps à parler avec l'un, parler avec l'autre, mettre de l'eau dans le vin de lui, l'autre dans le vin de l'autre. Et du coup, ça, petit à petit, j'arrive à recouler les morceaux. Mais en fait, là, je suis tellement occupée que limite, des fois, on m'envoie des messages en mode Tania, s'il te plaît, reprends la conversation parce qu'on a genre un groupe de famille. Tania, s'il te plaît, parle parce que moi, je vais péter un plomb. Je suis en mode ok. Alors, attends, je me remets dans le bain. Donc, ouais, je pense que j'ai toujours été un médiateur et que là, limite, comme je suis très. Occupée, plus qu'avant en tout cas, genre je le suis moins, mais en tout cas oui, à l'époque je peux te dire que tout le monde, même les adultes et tout le monde était en mode Tania c'est... Mais attention, c'était quand même une pression, hein, parce que l'air de rien, c'est pas normal qu'à ma 12 piges je sois en train d'essayer de recoller les morceaux à droite à gauche de tout le monde, quoi. C'est un peu chiant.
Mais c'est parce qu'ils ont des forts caractères ?
Ouais, forts caractères, beaucoup des caractères têtu. Un peu de cochon, têtu, rancunier. Donc voilà, moi je suis pas rancunière, je suis pas têtue et je suis très rationnelle. Parce que je disais déjà dans un autre podcast, je suis quelqu'un, j'aime bien quand tout est brouillon, remettre les choses à leur case et essayer de comprendre chaque personne, pourquoi elle pense comme ci, pourquoi elle en arrivait à s'embrouiller sur ça, qu'est-ce qui se passe derrière. Et après, du coup, j'explique à l'autre en mode, tu vois, elle pensait ci parce que ça derrière. Et du coup, il faut comprendre la personne. Parce que voilà, des fois, comme par exemple pour les remarques sur le poids, les trucs comme ça, genre en vrai, il y a quelqu'un peut-être qui va te dire bravo, t'as perdu du poids, mais parce que pour elle, c'est un bon signal. C'est pas dit méchamment, mais c'est dans sa tête, ça sonne bien. Mais si toi, tu le sais pas, si t'as pas fait ce travail en amont de comprendre le pourquoi du comment, tu peux mal recevoir des choses.
Mais c'est ce que je dis souvent, hein, les remarques des autres leur appartiennent.
Mmh, mmh.
Enfin, ça veut dire en fait cette phrase, c'est un peu en mode, ce que tu dis de moi, ça t'appartient. Ce n'est pas la vérité, c'est ta vision des choses. Et c'est pas forcément la vérité, ma vérité, je sais pas comment expliquer.
Non, mais
si. Tu vois, quand les gens ils te disent justement...
C'est dans son œil.
C'est ça, c'est parce que les gens ils disent les choses en fonction de leurs propres insécurités, tu vois. Et souvent c'est d'ailleurs révélateur de eux. Ce qu'ils traversent ou de eux ce qu'ils pensent, tu vois. Enfin, en tout cas, je parle plutôt des remarques néfastes ou négatives sur le physique. Et c'est vrai que les fêtes de fin d'année, c'est quelque chose qui nous ramène beaucoup aussi à notre statut social. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Mais c'est vrai que les injonctions qui pèsent sur nous dans la société, finalement, on les retrouve aussi dans nos repas de famille. Et notamment, par exemple, quand tu es célibataire, moi, ça fait des années que je suis célibe et du coup, c'est pas forcément un moment de plaisir pour moi.
Bah, c'est clair qu'en fait, j'ai l'impression que comme on se voit pas beaucoup, en tout cas dans ma famille, du coup, on fait le check en mode, bah, alors, t'en es où ? Donc, alors, raconte-moi. Et tu prends toutes tes petites cases. Ça, c'en est où ? 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 Et en fait, oui, forcément, il y a l'histoire du couple qui revient sur le tapis, il y a le taf. Après, tu es plus ou moins épanouie dans chacun des domaines, donc tu vas être plus ou moins à l'aise de parler de tous. Mais en fait, ça peut être un truc qui te trigger, tu vois, de parler de ton célibat, par exemple, si tout le monde dans ta famille est en couple depuis longtemps. Mais bon, après, moi, personnellement, dans ma famille, il y a eu beaucoup de divorces, de trucs. Mon père, il a quand même eu beaucoup de meufs différentes et tout. Donc, l'air de rien, c'est assez décomplexé quand même par rapport à ça. Mais bon, j'ai quand même toujours le droit un peu. Alors, ça en est où ? Là, par exemple, j'étais en couple l'année dernière, au Noël dernier. Je pense qu'à ce Noël-là... Oui, je pense. Après, je sais pas, parce que comme maintenant, je suis sur Insta et que, bah, l'air de rien, il y a pas mal de gens qui me suivent, bah, je pense que l'information, elle finit par tomber peut-être dans les oreilles de ma famille. Donc, je suis pas sûre maintenant, parce que j'ai l'impression que je le dis quand même. Donc, voilà, peut-être on va pas me poser de questions. Mais en tout cas, à l'époque, c'était sûr que si j'étais pas sur Insta, on m'aurait reposé la question. Oui, oui, oui.
Et s'il y a des remarques voilà, qui sont un peu chiantes par rapport à ton célibat, tu fais quoi ?
Bah, pour moi, the shorter, the better. C'est-à-dire qu'en fait, je comprends que ce soit pas forcément méchant, tu vois, parce qu'il va pas savoir si c'est... Enfin, moi, dans mon cas, ils peuvent savoir, tu vois. Mais dans certains cas, ils peuvent pas savoir où t'en es dans ta vie. Donc, des fois, j'ai l'impression que c'est juste des conversations pour demander des nouvelles et peut-être surenchérir derrière avec autre chose. Donc, moi, je pense que si c'est quelque chose qui vous met mal à l'aise, bah, vous répondez de manière brève et vous passez à autre chose, en fait. Parce que, en fait, ce qu'il faut toujours, pour moi, vous rappeler, et c'est ça qui va vous permettre d'être plus ou moins touché par les remarques qu'on va vous faire, c'est en fait, ça vient de vous. Vous décidez d'être plus ou moins mal par rapport à ce qu'on va vous dire. Si par exemple, bah, votre célibat, vous vous en foutez, ou vous savez le pourquoi du comment vous êtes célibataire et ça vous va très bien, mais en fait, vous pouvez très bien répondre, bah non, je suis célibataire, point à la ligne, et ça va vous passer au-dessus. Donc c'est plus un travail limite à faire aussi sur soi-même par rapport à certains points, à se rappeler qu'en fait, bah, être célibataire, c'est pas une tare. Par exemple, en recherche d'emploi, c'est pas une tare si vous cherchez un emploi dans lequel vous allez être plus épanoui que le précédent. Donc en fait, c'est vraiment une histoire aussi de mentalité vis-à-vis de vous-même, je trouve.
Oui, c'est clair, il faut essayer de ne pas laisser les insécurités des autres rentrer en nous. Exactement. D'ailleurs, je sais que moi, quand j'ai dû expliquer un petit peu le métier que je faisais, c'est toujours un bon gros bordel au fait de famille, parce que déjà, personne ne comprend le mot influence. On me demande tout le temps ce que je fabrique, qu'est-ce que c'est que mon métier. Non, mais quel est ton vrai métier ? Insta, c'est ton passe-temps, ton loisir.
C'est, ouais, c'est pas un taf, ça, c'est...
Oh, attends, mais Chloé, tu as fait Sciences Po pour finir influenceuse sur les réseaux, Je suis là, oui, et je suis très heureuse comme ça, mais merci quand même de t'en inquiéter.
Et c'est parce que aussi, tu as confiance en ton métier actuel. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais tu avais des insécurités par rapport à ton Insta, par exemple, que tu avais du mal à gagner ta vie et tout, je pense que ça te toucherait différemment de là actuellement où t'en vis correctement et t'en es fière, tu vois.
Mais ouais, c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai dû quand même bien leur expliquer, donner des arguments et tout. Bon, maintenant, j'ai l'impression qu'ils sont habitués, vu que ça fait... on va dire 2-3 ans que je fais ça à temps plein. Donc, il y a eu déjà plusieurs Noëls où j'ai déjà expliqué ce que je faisais. Donc, franchement, ça va. Mais je sens les regards un petit peu avec pas mal de jugement quand même. Et puis, peut-être que c'est aussi des personnes qui n'ont jamais osé finalement se lancer elles-mêmes dans leur projet, quitter leur travail pour faire quelque chose qui leur plaise, entreprendre et tout. Peut-être que ça vient de là aussi, leurs insécurités. Enfin, pourquoi juger mon métier alors que je leur dis que je suis très bien en train de faire ça et que je suis hyper heureuse, tu vois.
Ouais, et puis c'est leur peur, tu vois. Eux, pour eux, peut-être que le métier d'influenceur, c'est un métier qui est... d'influenceuse, c'est un métier qui est précaire. Peut-être que c'est des personnes qui ont longtemps eu peur de quitter leur travail ou qui n'osent pas. Et du coup, bah, en fait, eux, ils retranscrivent leur insécurité sur toi. Mais je pense que toi, il me semblait qu'à l'époque, tu me disais que ça te faisait un peu, ça te mettait un peu mal à l'aise, ça te faisait un peu de la peine que les gens remettent en cause ton travail. Mais je pense que maintenant, a posteriori, que ça marche bien et que tu es confiante, tu te sentirais différemment si on te critiquait dessus, non ?
Ouais, je pense qu'il y a même 1 ou 2 ans, j'avais peut-être pas fait le chemin que j'ai fait aujourd'hui. Ouais. Mais c'est aussi parce que bah, aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai acquis, entre guillemets, encore plus de légitimité, même si bah, j'en avais déjà avant, tu vois. Mais là, j'ai l'impression que bah, c'est vrai que comme j'ai plein de projets, tu vois, que j'ai lancés, qui ont marché, etc., j'ai l'impression que les gens, ils la ferment un peu plus. Mais ça aurait été cool qu'ils se testent dès le départ, tu vois. Genre, si moi, je te dis que je suis heureuse et que c'est que la vie que j'ai envie de mener, pourquoi toujours me dire que ce n'est pas un vrai travail, etc., tu vois. Donc, ouais, toujours des petites remarques comme ça. Même, tu vois, franchement, des fois, ça a pu me blesser. Des remarques, par exemple, de ma grand-mère une fois. Et ouais, je vais balancer.
À toi aussi.
Une fois, par exemple, ma grand-mère qui m'avait dit non, mais non, j'ai pas envie de prendre de photos avec toi parce que j'ai pas envie que tu m'affiches sur tes réseaux. J'ai dit, mais mamie, c'est pour moi la famille, photo. Ouais. Je vais pas t'afficher sur. je vais pas poster une photo avec ma grand-mère. Elle me dit, ouais, non, parce que j'ai entendu dire par des gens de la famille que apparemment tu racontais ta vie sur les réseaux. C'est un petit peu du n'importe quoi.
En plus, c'est horrible par des gens de la famille, ça fait colporter des trucs, ça donne
n'importe quoi. Je me suis dit, oh waouh, c'est-à-dire qu'on parle dans mon dos et tout. Enfin, franchement, j'étais super mal à l'aise, tu vois. Et je te jure, franchement, j'étais en mode, non, mais c'est une blague, qui parle sur mon dos? De quoi c'est du n'importe quoi, je fais quand même ce que je veux, enfin c'est comme si je racontais, enfin je dis pas des trucs de ouf sur Insta, tu vois. Mais c'est parce que je pense que c'est des personnes qui ne comprennent tout simplement pas.
Après peut-être que les autres personnes ont juste dit, ah bah peut-être que Chloé va nous mettre sur ses réseaux, et après ta grand-mère, comme elle a pas conscience de ce qui se passe sur les réseaux parce qu'elle y est pas, elle s'est dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, tu vois. Mais parce que je pense qu'elle n'a pas accès à ce que tu produis, et donc elle se rend pas compte. Mais donc tu vois, il faut pas te laisser impacter par des trucs comme ça qui sont en fait des peurs infondées d'autres personnes qui se rendent pas compte de ta réalité. C'est vraiment, en fait, faut se rappeler de sa réalité et pas laisser les gens essayer de s'immiscer et d'immiscer leurs mauvaises graines dans votre réalité. Si vous êtes confiante avant ce repas de Noël, certaines choses, repartez confiante après le repas de Noël, ça ne doit pas changer. Et j'espère que ça ne changera pas. En tout cas, on espère que grâce à nos petits conseils, ça sera un petit peu moins difficile et que vous vous rendrez compte aussi, l'air de rien, parce que peut-être que sans le vouloir, Chloé et moi, on partage des bons moments de famille et vous ne le voyez pas, mais nos familles sont aussi compliquées. Il y en a partout, comme on l'a dit. Et on espère qu'en vous expliquant ça, ça vous aura peut-être un petit peu décomplexé et fait relativiser. Et on vous souhaite des très bonnes fêtes de fin d'année. Hein, Chloé ?
Oui, et puis surtout, on a parlé beaucoup de négatifs aujourd'hui, mais bon, on a aussi beaucoup de positifs. Mais on n'avait pas non plus envie d'étaler notre bonheur, et on voulait plutôt parler aussi des côtés un peu négatifs, peut-être parce que vous pouvez aussi un peu plus vous retrouver en nous.
Et puis surtout qu'en plus, je pense qu'on vous sert déjà assez sur les réseaux sociaux, les petites familles parfaites. Là, on était là plus pour vous donner le côté on veut du vrai de Noël, parce que ça manque un petit peu trop sur les réseaux, je pense.
C'est ça. Donc, on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, les Cops, et on vous dit à la semaine prochaine.
Bisous, les Cops!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.